Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneuve.
Avec nos débatteurs de ce soir, Philippe Doucet, membre du Conseil national du PS, Patrick Karam, vous le connaissez bien, il est vice-président de la région Île-de-France et vice-président du Parti Libre, Alexandre Devecchio, rédacteur en chef adjoint Figaro, et Prisca Thévenot, porte-parole de La République En Marche. Il n'en est qu'aux prémices, mais Édouard Philippe est bien décidé à incarner le centre de ces années 2020. Il réfléchit à un parti, il y a des discussions, des réunions, des rassemblements. On n'a pas encore de nom, ou en tout cas pas connu du grand public. Le problème, c'est que jusqu'à présent, le centre, c'est le MoDem. Avant même La République En Marche, dont on ne sait plus vraiment si c'est le centre, le MoDem est lui le centre, tout comme l'UDI. Et à la tête du MoDem, il y a un certain François Bayrou. Et pour les copyrights centristes, qu'il détient facilement depuis la fin des années 80, bah, pas certain qu'il les cède si facilement.
Ce que je crois, moi, profondément, c'est qu'on n'est pas là pour défendre chacun notre boutique, chacun de nos intérêts, on est là pour aider au combat principal, au combat historique. Je ne suis pas pour le chacun pour soi.
François Bayrou sur LCI, pas de guerre de clocher, pas de guerre de boutique. De quoi parle-t-on exactement là, Alexandre Devecchio?
Il faudrait rappeler à François Bayrou ce que disait François Bayrou au moment où on lui proposait de rentrer dans l'UMP, où il disait « si nous pensons tous pareil, nous ne pensons plus rien ». Et il avait refusé justement de se fondre dans le grand ensemble qui était l'UMP. Je trouvais ça d'ailleurs assez noble et beau à l'époque. Donc voilà, manifestement, il a changé d'avis puisque ses intérêts ont sans doute changé. Il défend sa place dans la majorité. Il espère peser le plus possible, peut-être être Premier ministre d'Emmanuel Macron s'il est élu. Je pense que c'est ça qui se joue. Et donc, face à Édouard Philippe, il y a une concurrence qui s'installe. Si Édouard Philippe structure une aile droite de la majorité, sans doute que François Bayrou pèsera moins. Et donc, il se sent
François
un peu...
Bayrou pense pouvoir être Premier ministre d'Emmanuel Macron.
François Bayrou pense toujours pouvoir être président.
Ça aurait déjà été fait, ministre. Non,
parce qu'il espérait déjà. Je pense qu'il espérait en 2017. Ça n'aurait pas été anormal, d'ailleurs, d'être le Premier ministre, puisqu'il avait été un des acteurs très importants.
En 2017, ce n'aurait pas été anormal, mais on a bien vu qu'Emmanuel Macron, moi, je pense, s'est un peu débarrassé de l'encombrant François Bayrou. Donc, je pense que François Bayrou est sans doute naïf.
De croire que
Emmanuel Macron va le nommer Premier ministre. Mais rien n'empêche d'espérer.
Est-ce qu'on peut raconter une petite anecdote qui montre un peu ce qu'est François Bayrou? Nicolas Sarkozy arrive en tête en 2007 et puis suivi par Ségolène Royal. Et que fait François Bayrou? Il se retrouve au pied de l'immeuble de Ségolène Royal à sonner parce qu'il veut être reçu par elle. Voilà, ça en dit long sur le personnage. Effectivement, il a vendu chèrement sa place auprès des macronistes. Il a soutenu Macron. Et pour Emmanuel Macron, il y a une dette. Mais la dette est plus dans la tête, à mon sens, de François Bayrou aujourd'hui.
C'est les accords de Monsieur Bleu.
Pour François Bayrou aujourd'hui, cette dette est éternelle. Et il se charge de le rappeler systématiquement à chaque séquence politique. Il fait sa petite crisette de nerfs. Il tire les sonnettes.
Non, mais c'est la droite qui nous dit ça.
Très franchement, moi, cette question, cette façon de faire de la politique, moi, je respecte les MoDem. Je n'ai rien à dire sur les MoDem. Mais cette façon de faire de la politique qu'il a, lui, ça m'ennuie au plus haut point. Alors, pour revenir à ce débat qui va l'opposer à Édouard Philippe, c'est assez intéressant. Il y a deux visions. Il y a d'abord la vision de grand parti. On veut recréer une sorte d'UMP, mais cette fois-ci avec toutes les tendances, y compris les MoDem. On va donc essayer après de chasser dans d'autres coins. On va aller voir si l'UDI, si jamais Emmanuel Macron gagne, si l'UDI ne pourrait pas rejoindre le morceau, si le nouveau centre avec Morin ne voudrait pas venir. On irait voir aussi du côté des Républicains. Et que fait aujourd'hui Édouard Philippe? Il réunit ses soutiens à Fontainebleau et il leur dit « Voilà, nous allons peser, nous allons nous structurer. Nous sommes un parti de maire. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui à la Macronie ? Des élus locaux. Ils ne pèsent pas, très peu aujourd'hui, au plan territorial. Quasiment pas de maire, quasiment pas de conseillers régionaux, pas de conseillers départementaux. Et juste un dernier point sur ça. Il y a une troisième partie sur la droite que vous n'avez pas cité. Il y a au sein du gouvernement, là, il faut quand même dire que tout ça, ça se complexifie. Il y a une tendance avec Le ministre de l'Intérieur, qui prend le lead avec le ministre de l'Outre-mer, avec le ministre de l'Éducation nationale.
Ah bon, Blanquer.
Ouais. Blanquer et le ministre de l'Économie, tous les quatre, ils ont un clan, le clan des droites. Et eux aussi, ils chassent. Et à l'Élysée, vous avez un homme, un homme qui a l'habitude de faire la chasse aux uns aux autres. Il s'est placé partout. C'est qui ? Cherchez le mot, cherchez le nom. On peut avoir beaucoup de respect pour lui. Allez, on va le dire, il est dans le 92. Non, mais... C'est lui qui est aussi un peu à la manœuvre. Il essaie de tricoter quelque chose qui est improbable entre tous ces courants de pensée. C'est qui ? Je vous laisse chercher le nom et quand vous l'aurez trouvé,
Thierry
vous le direz.
Oui, non mais voilà.
Thierry Solaire.
Thierry Solaire.
Là, ce qui vient de se passer...
Prisca Thévenot.
Oui, pardon. Ce qui vient de se passer, c'est extrêmement important. Je pense que c'est symptomatique. Avec tout le respect que j'ai pour vous, Patrick Caram, en fait, tout ce que vous venez de décrire, ces fantasmes, ou pas d'ailleurs, peu importe, c'est tout ce que les Français n'ont pas envie d'entendre. Tout ce que les Français n'ont pas envie de voir pour le débat qui s'annonce pour les prochaines semaines et les prochains mois de la campagne présidentielle. On ne veut pas savoir ça. Par contre, ce qu'on veut savoir...
On ne veut pas savoir la réalité.
Non,
alors.
On veut... ça n'intéresse pas. Mais ce qui intéresse, ce qui intéresse les Français, c'est peut-être aussi qu'on puisse avoir un vrai débat où je peux en placer une. Mais le sujet qui est très simple, c'est plutôt de se dire... Aujourd'hui, regardons les tendances politiques, les gens qui sont là, quelles sont les tables en présence, quels sont les projets en présence et qui s'assoit autour de la table. Et en l'occurrence, aujourd'hui, la seule dynamique politique où il y a une table qui s'allonge, qui s'agrandit, qui s'élargit, c'est celle de la majorité présidentielle. Et oui, effectivement, il est soit question de venir laisser un bout de sa chaise à ceux qui ont envie de nous rejoindre, ou alors, si la chaise est trop petite ou trop étroite ou pas assez à l'aise, d'en créer une autre. Donc ce que je suis en train de dire aujourd'hui, c'est peu importe les toutouilles politiques, ce qui intéresse, c'est de savoir quel est le projet porté et qui se rassemble autour. Et c'est l'objet, excusez-moi, et c'est l'objet de ce que vient de dire M. Bayrou en disant notre objectif, c'est de défendre, et je reprends ces mots, un combat commun, et c'est ça le plus important.
Un mot qui va durer une seconde. Si Édouard Philippe se lance aujourd'hui, c'est que l'arrière-pensée, c'est l'après-Macron, c'est-à-dire les présidentielles d'après. Il estime qu'il est jeune, il a encore le temps de faire. Ça veut dire que Macron, si jamais il est élu, ce que je ne crois pas, mais si jamais Macron est élu, ce sera un président de coquille vide, parce que derrière, vous aurez des courants de pensée qui vont structurer d'autres campagnes, et en réalité, Macron, ce sera comme Chirac en fin de mandature, sans réelle efficience politique.
Philippe Doucet avait demandé de ne pas prendre la parole juste avant vous. Pardon.
Non, mais bon, simplement, par rapport à, ce qui est intéressant dans cette affaire-là, c'est que Édouard Philippe lance une machine, la sienne, en 2022 au service d'Emmanuel Macron, en 2027 pour lui, et que du coup, effectivement, ça oblige tous ceux qui sont dans la maison commune, pas si commune, mais commune autour d'Emmanuel Macron, de se recomposer. Donc, effectivement, il est normal que M. Bayrou essaye de défendre son périmètre, parce que lui, il considère, je crois que c'est sa phrase, que lui, il est du centre et qu'Édouard Philippe est de droite. Mm. Ce qui, je pense, est assez juste, d'ailleurs. Là. Donc, du coup, voilà, c'est ce pilotage-là qu'il va y avoir à faire. Pour le reste, logique politique. Franchement, quand je vois comment Valérie Pécresse a embarqué une partie du MoDem contre le MoDem pour ses élections régionales, M. Caram venait pas nous faire la leçon sur logique politicienne. Ça serait pas, c'est pas correct, ça ne dit pas que les autres là.
Oui, vous devriez plutôt remarquer comment le MoDem, la tête du MoDem national, a demandé à tous ceux qui ont travaillé avec nous pendant toute cette mandature de trahir leur reniement, de se renier, de trahir leurs engagements. Et beaucoup ont refusé de le faire. C'est plutôt dans ce sens-là que vous devriez vous interroger.
Je pense que Édouard Philippe joue 2027, mais qu'il est aussi en mission pour Emmanuel Macron pour les législatives. Parce que moi, je pense que si Emmanuel Macron gagne la présidentielle, ce coup-ci, c'est plus compliqué d'avoir une majorité. D'ailleurs, sur une première élection, le président a toujours sa majorité. Sur la seconde, ça peut être plus compliqué. On se souvient de Mitterrand en 88.
Ouais, majorité relative.
Majorité relative. Et je pense que c'est ce qui, c'est l'une des angoisses, enfin, c'est d'Emmanuel Macron aujourd'hui. Et sans doute pense-t-il que pour avoir une majorité, il faut qu'il ait une majorité de droite, en quelque sorte. Et il pense déjà à une probable débâcle de la droite. Alors, j'espère que ce sera pas le cas, mais je pense que c'est ce qu'a le président en tête. Et vu le début de la campagne, Marine, c'est pas si mal barré que ça pour lui, c'est de rapatrier voilà, toute une partie de la droite qui partage d'ailleurs en partie ses idées. Hein. Certains ont déjà migré vers Emmanuel Macron et d'autres pourraient le faire au moment des législatives. Donc c'est ça aussi qui joue et pas seulement 2027 pour Édouard Philippe.
Alexandre Devecchio, Prisca Thévenot, Patrick Karam, Philippe Doucet sont là pour parler également d'Angela Merkel. Et oui, dure succession, on en parle juste après ça.
Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneuve.
Jusqu'à 20h, les débatteurs sont là. Patrick Karam, vice-président de la région Île-de-France, Alexandre Devecchio, rédacteur en chef adjoint au Figaro, Prisca Thévenot, porte-parole à l'REM, et l'un des membres du Conseil national du PS, parce qu'ils sont plusieurs, Philippe Doucet. Ça fait presque 16 ans qu'Angela Merkel était en place. Elle ne part pas tout de suite d'ailleurs. Hein. Elle aura connu 4 présidents de la République française. Merkel jette l'éponge, Merkel jette aussi un sérieux coup de froid, car les Allemands aiment la stabilité, Gleichgewicht, et là, les cartes sont rebattues. Dernier résultat de ces projections justement allemandes, nous sommes à 24-4 pour la CDU, à 25-6 pour le SPD, 10,3 pour la AfD, 11,6 pour le FDP. Les Verts, surtout, sont presque à 15%. Donc voilà, on est dans un, mais c'était prévu, dans un mouchoir de poche, comme on dit, des résultats au coude à coude. Philippe Doucet, c'est bah, difficile la succession Merkel. Hein.
Oui, enfin, c'est, alors le social-démocrate que je suis, moi je suis ravi ce soir, on verra, je croise les doigts, tous les doigts et tout.
Pour si, Scholz.
Bah oui.
Même si on ne peut pas dire de non, c'est ce que disait. Elle a raison, Hélène Kohl, de dire on ne va pas pour l'instant dire de non parce qu'on est.
Ok, enfin c'est lui, la tête de liste, si je puis dire, du SPD. Donc il faut rappeler quand même qu'il y a quelques mois, il était.
Ministre des Finances.
Il était ministre des Finances, mais surtout il était à moins 10% dans les sondages. Le SPD était entre 12 et 13 de mémoire. Donc c'est une très belle remontada, si je voulais caricaturer Arnaud Montebourg. Donc ça veut dire qu'il y a un espace pour la social-démocratie. Tous ceux qui pensaient en Allemagne, qui pensent qu'en France, que le temps de la social-démocratie est derrière nous, bah finalement, les Allemands démontrent que ce n'est pas le cas. Par contre, il faut reconnaître objectivement que dans la dernière semaine, avec l'entrée en campagne d'Angela Merkel, le SPD qui avait bien décroché, s'est rapproché, enfin les chrétiens-démocrates se sont rapprochés. Et même si les Verts sont très importants en Allemagne, on voit aussi que les sociaux-démocrates peuvent se retrouver dans les Verts. Donc, ce qui est possible en Allemagne peut être possible demain en France.
Alors, comment est-ce que vous regardez ces résultats, les autres, hein, Patrick Karam?
Il faut faire une remarque, c'est que le système politique allemand n'est pas celui français. Nous sommes dans un système politique apaisé. Vous avez dit l'opposition, on a parlé d'alternance. Pardon, il a été quoi le chef de l'opposition, enfin celui qui est le concurrent du parti de Merkel? Il a été son ministre des Finances?
Oui, parce qu'il y a une grande coalition.
Il est son ministre des Finances. Donc vous voyez bien ce que ça signifie. Ça signifie que l'Allemagne finalement est un pays où le consensualisme est prégnant. Et on le voit d'ailleurs sur le syndicalisme. Moi, ce qui me frappe,
il y a des anciens socialistes à la République en marche. Il y a des territoires de progrès qui sont dans le gouvernement, je crois, Patrick.
C'est que vous ne vous retrouvez pas après dans l'opposition en train de vous confronter au parti que vous avez soutenu. Mais c'est le système allemand et c'est les joies du système allemand. Et le système même syndical va dans ce même sens. Vous n'avez que très peu de grèves parce que vous avez un système de cogestion des grandes entreprises par les Allemands.
Donc vous proposez
Vous êtes donc dans un système qui n'est pas le système français, tout simplement parce que nous avons une autre culture politique, parce que c'est, je ne sais plus qui disait, mais Alexandre va nous le rappeler, la France est un pays qui aime la guerre civile, on peut ne pas le concevoir comme ça, on est dans une logique totalement différente là-bas. Et même les Verts, vous voyez les Verts aujourd'hui, leur débat c'est de sortir de la croissance, leur débat c'est d'être dans le rock, etc. Là-bas vous n'êtes pas dans cet extrémisme là, les Verts se préparent. Alors c'est vrai qu'au sein des Verts allemands vous avez des courants de pensée différents, mais ils sont plutôt dans leur majorité prêts à participer à un gouvernement de coalition.
Alexandre,
je pense qu'effectivement Patrick Karam a rappelé que le système était très différent du nôtre, on est à la proportionnelle, mais en fait le paysage politique ressemble beaucoup au nôtre, parce que si on prend le premier tour de la présidentielle, les scores étaient très éclatés et finalement avec des partis qui étaient très proches en termes de scores les uns des autres. On se souvient qu'Emmanuel Macron c'était 24 je crois, Marine Le Pen 21 et ensuite on avait François Fillon et Jean-Luc Mélenchon à 19. Je pense que ça montre que hélas les sociétés occidentales sont de plus en plus archipélisées, polarisées, et peut-être qu'on parlait de la question du sens en début d'émission, il y a plus de politique qui arrive à parler à toute la nation. Chacun parle à une petite clientèle électorale et il y a toute une partie de la nation qui est à l'écart, n'arrive pas à embrasser, à créer de la cohésion nationale.
Avec 2017, enfin, c'est qu'il n'y avait pas d'affaires politiques. Hein. Là, on avait quand même l'affaire Fillon qui avait pris des proportions.
Oui, qui avait pris des proportions, mais je crois que moi j'ai toujours pensé que l'affaire Fillon avait eu des conséquences, mais que peut-être Fillon n'aurait pas fait un score aussi gros qu'on le pensait. Et on voit bien que à mon avis, le paysage aujourd'hui est encore plus éclaté qu'il ne l'était la dernière fois. Le risque là-dedans, moi, ce que j'aurais bien aimé avoir, je ne sais pas si on les a, c'est les chiffres de l'abstention. C'est aussi un phénomène qu'on a vu en France. Hein. Après l'élection d'Emmanuel Macron, il y a eu pour la première fois plus de 50% d'abstention aux législatives. Et donc le risque de ce système éparpillé, c'est qu'on ait un cercle de la raison qui gouverne. Et Emmanuel Macron, finalement, là aussi, on est dans un système différent, mais finalement, il fait en quelque sorte une coalition entre le centre-gauche et le centre-droit. Mmh. Et c'est cette coalition qui gouverne en Allemagne et qui va encore gouverner, même si là le SPD est arrivé à peu près en test. On va sans doute avoir une grande coalition tout à fait comparable. Mais le problème de ce que j'appelais le cercle de la raison, c'est qu'il y a quand même toute une partie des populations, des peuples qui ne se sentent pas représentés et qui sont de plus en plus en marge de la politique. Et ça va être un problème pour les démocraties occidentales, et c'est ce qui explique l'émergence de phénomènes comme Trump, comme Zemmour en France ou comme Johnson en Grande-Bretagne.
Je crois qu'on n'est pas encore les chiffres de l'abstention, tout simplement parce que c'est ce que disait Hélène Kohl tout à l'heure dans le journal, c'est qu'il y a un problème de délai avec le vote par correspondance.
Qui a été très important.
Exactement.
Cette fois-là.
Très important cette fois-là.
Mais moi, je vais rejoindre ce qui vient d'être dit avant, et justement, finalement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une volonté de changement dans la continuité, donc effectivement, les grands espaces restent à peu près stables. Et effectivement, c'est ce qu'on peut à peu près voir, ce qui se passe à peu près partout ailleurs. Maintenant, ce qui est intéressant de voir pour nous, c'est deux aspects. Pour nous en France.
Pour nous Français ou pour nous LREM?
Pour nous en France.
D'accord, non, mais très bien.
Justement, pour nous en France, c'est, et dans la démarche et dans la campagne qui s'annonce aussi, bien évidemment, c'est effectivement comment va s'installer justement le pouvoir en place, parce que l'axe franco-allemand est important dans la construction de l'Union européenne.
Pour en parler, ouais.
Et donc ça, c'est important, notamment avec la présidence de l'Union européenne qui nous revient au mois de janvier. Donc ça, c'est un premier point qu'il faut avoir en tête. Et rien n'est jamais acquis. Pour autant, je ne suis pas en train de faire du fatalisme ou de l'urgentisme. Hein. Tout va bien, mais c'est important de voir ce sujet-là. Et puis, le deuxième sujet, et là, je vais rejoindre ce qui vient d'être dit avant, c'est le sujet de l'abstention. Parce que moi, de ce que j'avais compris, après, il faudra vérifier dans les chiffres, mais c'est qu'il y avait eu un petit regain de participation. C'est ce que les sondages commencent à dire, justement notamment avec le vote par correspondance, où là, il y a eu vraiment un regain par rapport aux dernières législatives en Allemagne. Et si ça se passe en Allemagne, nous, on doit quand même le regarder, bien sûr avec le prisme français, mais on doit le regarder parce qu'on parle effectivement beaucoup en ce moment de Zemmour, de la droite, de la gauche, de Macron, tout ça, mais on oublie de parler du premier candidat en France, qui est l'abstention. Et quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, peu importe qui arrivera au bout du bout en 2022, le premier candidat restera l'abstention si on ne s'y met pas tous ensemble. Donc je pense que c'est aussi important de voir comment ils ont réussi à réembarquer une partie de la population qui était complètement déchantée par la politique et qui soit n'allait pas voter, soit allait faire un vote contestataire. Et un vote contestataire, on sait très bien que ce n'est pas ce qui honore beaucoup de choses pour une nation qui se grandit.
En tout cas, sur le paysage, je pense qu'on est à peu près tous d'accord. Et d'ailleurs, on pourrait faire une projection sur 2022, en tout cas sur les projections de sondage qu'on a actuellement en France. Mais on a effectivement un SPD à 25,7, un parti centriste d'Angela Merkel à 24,6. Les Verts, aux dernières estimations, sont en train de descendre, 14,4. Et on a une droite, hein, une droite libérale à 11,7. Quoi. Donc c'est... Et Philippe Doucet.
Les libéraux. Oui, mais pour revenir sur ce qu'évoquait Prisca Thévenot un instant, je pense que c'est la première fois, en fait, c'est l'après Angela Merkel, donc il y a un peu plus de participation, parce que le jeu apparaissait ouvert, parce que des fois d'avant, le jeu était quand même plutôt plus fermé, qu'effectivement, il y a un certain nombre d'électeurs qui disent bon, là, il y a une partie qui joue, donc je vais voter. C'est peut-être un des éléments de ce point de vue-là. Après, effectivement, ce qu'évoquait Alexandre Vecchio, moi je partage assez ça, c'est que la difficulté, c'est qu'en gros, le cercle de la raison, pour reprendre, même si ce n'est pas un vocabulaire social-démocrate, c'est peut-être à peu près 50% aujourd'hui des Français, et il y a 50 autres pourcents qui sont ailleurs et qui sont notamment dans l'abstention parce que finalement ils ne trouvent pas d'offre politique qui leur convienne. Donc ça interroge notamment la gauche par rapport à ça, mais c'est aussi une des difficultés dans une logique démocratique parce que quand vous avez 50% des gens qui restent chez eux et qui vont à la pêche, c'est sûr que vous ne les mettez pas dans le jeu démocratique. Et mine de rien, une démocratie, c'est quand même extraordinairement fragile. Hein, on pense que c'est fort, une démocratie c'est fort, mais pour peu que chaque citoyen porte un petit bout du bateau, quoi. Hein, donc, et c'est pas le cas aujourd'hui.
On se sent un peu concerné.
Oui, se sentent concernés. Et donc ça, je pense que c'est une des grandes fragilités dans un pays très éclaté. C'est le talent de la politique et le génie de la politique d'essayer de rassembler et de construire un chemin commun. Je pense que, enfin, voilà, en tout cas pour ce qui est mon camp, on a encore du chemin à faire.
Est-ce que vous imaginez que pour nous Français, enfin en tout cas pour le gouvernement, l'arrivée des Verts, c'est comme un nouveau souffle. Ils le souhaitent. Parce que les Verts, vous savez, font des coalitions. Ils l'ont fait dans des républiques, vous savez que c'est un État fédéral. Et donc, dans certaines républiques, ils gouvernent, dans telle république...
Ah, j'ai compris que les Verts étaient un État fédéral.
Ils gouvernent avec les conservateurs, dans d'autres, avec le courant socialiste. Oui, oui. Et là, que veut le gouvernement français? Il se dit, mais on devrait avoir les Verts un peu plus forts. Pourquoi? Parce que les Verts vont pousser le... Alors, anti-nucléaire, donc ça c'est un sujet pour nous, mais ils ont une proximité avec les Verts, beaucoup plus forte qu'avec les libéraux, avec qui ils siègent au Parlement européen, et cette proximité-là aujourd'hui, c'est sur les règles budgétaires, parce que les Verts sont beaucoup moins dans l'orthodoxie budgétaire que les deux autres partis. Ils plaident notamment pour qu'il y ait un plan de relance à 50 milliards d'euros par an sur 10 ans. Ça fait notre affaire. S'il y a un plan de relance, eh bien, peut-être que les Allemands exporteront moins et puis ils viendront chez nous acheter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ils regardent avec beaucoup d'attention la nouvelle reconfiguration parce que pour eux, les Verts, dans un gouvernement quel qu'il soit, ça signifie que l'Europe peut bouger.
On parle de l'élection allemande avec cette succession de Angela Merkel qui n'est pas évidente. Prisca Thévenot, Alexandre Devecchio, Patrick Karam et Philippe Doucet sont avec nous et on parlera notamment du couple franco-allemand. C'est important ça aussi, à tout de suite.
Europe Soir Weekend. Pierre de Villeneuve.
Dernier quart d'heure des débats d'Europe Soir avec Prisca Thévenot, porte-parole de La République En Marche, Alexandre Devecchio, mon confrère du Figaro, avec Patrick Karam de la région Île-de-France et le membre du Conseil national du PS, Philippe Doucet. On parlait des élections en Allemagne avec ce coude à coude entre le SPD et la CDU d'Angela Merkel, avec donc Olaf Scholz, même si il faut être prudent sur les noms qu'on avance, qui serait en attendant, qui tiendrait en tout cas la corde pour ces élections. Ce qui nous intéresse évidemment en France, nous, c'est le fameux couple franco-allemand, puisqu'il y a une Wikipédia là-dessus, mais en tout cas, il y a une grande histoire, effectivement, loin de la blague, hein, une très très grande histoire politique et j'allais dire nationale, internationale entre justement ces deux nations. D'autant qu'on prend la présidence tournante de l'Union en janvier. Beaucoup de présidents français avaient trouvé le fit avec Angela Merkel. Là, on repart pour une soirée speed dating.
Oui, alors déjà, j'aime pas ces expressions du couple franco-allemand. En France, mais en Allemagne, ils ne parlent jamais du couple franco-allemand.
Je suis absolument d'accord, il ne sera pas le seul.
Voilà. Donc en Allemagne, c'est la relation franco-allemande. Donc les Allemands, ils ne font pas... Nous, on fait Roméo et Juliette.
On est les seuls à vouloir se marier.
Voilà, on est seuls, voilà. On est là...
On fait des couvertures de magazines.
Voilà, on fait des couvertures, voilà. On est là, des amoureux transis, tout ça. Mais en Allemagne, eux, ils sont beaucoup plus froids. C'est la relation franco-allemande. Donc nous, on met du sentimentalisme là-dedans. Alors qu'en fait,
mais ils sont peut-être moins sentimentaux
ils sont peut-être moins sentimentaux, ça c'est très clair. Et donc je pense qu'il faut, dans la relation avec l'Allemagne, il faut arrêter l'histoire du sentimentalisme. Parce que ça fait, vous évoquez la bonne relation d'Angela Merkel qui avait fité avec quatre présidents. Enfin, les quatre présidents sont quand même fait balader par Angela Merkel, quand même quelque
c'est
chose
un peu
de grandiose.
Ce que vous dites.
Non. On n'a rien gagné. Le seul, là, in extremis, grâce à l'économie du Covid, c'est Emmanuel Macron sur le budget de la relance, mais sur le reste, François Hollande, la renégociation, ça a été nein. Emmanuel Macron, 2017, grand discours à la Sorbonne, en Allemagne, la réponse est nein, etc., etc. La réalité, c'est ça. Et donc, Angela Merkel, elle a piloté, et on ne va pas lui faire le reproche, les intérêts de l'Allemagne, D'accord ? Et nous, on a été beaucoup dans la demande de l'Allemagne, de la demande de, on attend alors, de quelque chose de l'Allemagne.
Philippe Doucet, vous voulez venir, vous voulez, où est-ce que vous voulez en dire ?
Non, c'est ce quoi, que dire.
C'est qu'on ne devrait même plus évoquer cette histoire du couple si, franco-allemand.
Je pense, non, je pense qu'il faut parler de la relation franco-allemande.
Oui, mais alors dans quel voilà. sens ? On devrait, bah, se calmer, sens... on devrait se calmer ?
Non, mais je pense qu'on doit, nous, enfin, on doit, nous, se réarmer politiquement, intellectuellement, industriellement, pour ne pas se faire déborder par les Allemands. Ce qui vient de se passer...
Est-ce voilà, qu'on en on... a les moyens ? Est-ce
non, mais attendez, attendez. Là, il y a un truc énorme. Ariane Espace. Mm. Ariane Espace, monté par les Français, etc. Le gouvernement laisse partir comment dire, un module en Allemagne parce que les Allemands ont mis plus d'argent que nous dans Ariane Espace et donc ils demandent à récupérer les parts d'or de travail. Et nous, je crois qu'on va avoir un impact. Je crois que c'est à Vernon qu'Ariane Espace va avoir un problème. Franchement, et après on nous parle de politique industrielle.
Vous pourriez parler des sous-marins aussi.
On pourrait...
Est-ce qu'on a entendu les Allemands sur les sous-marins
Non,
français?
Mais bien sûr que non. Bien sûr que
ça,
non.
Un général allemand a signé avec un général australien un accord sur l'espace. Donc, dans le même temps, on dénonce, on est bien seul, parce que l'Europe n'a pas arrêté de négocier avec l'Australie. Avec l'Australie, le traité de libre-échange, et puis les Allemands continuent leurs petites affaires avec l'Australie. Alors sur ça, moi, je veux dire, c'est vrai qu'on a l'impression d'un couple un peu déséquilibré. Pourquoi ? Il y a quelques images fortes quand même. Souvenez-vous, Adenauer, De Gaulle. De Gaulle voulait arrimer l'Allemagne. Voulait arrimer l'Allemagne. J'étais pas né, mais vous peut-être.
Non, je n'étais pas né non plus.
C'est sympa, les débats d'Europe.
De Gaulle voulait arrimer l'Allemagne à l'Europe pour éviter une nouvelle guerre. Il faut se souvenir que c'est la France qui a voulu l'Union, l'Europe. Et la France a voulu l'Europe pour éviter la guerre sur son sol européen. Donc ce couple-là a été structurant. La deuxième image qu'on a tous en tête, c'est Mitterrand-Kohl. Mmh. Mitterrand-Kohl, main dans la main. Mmh.
La rose,
mais ça, c'était une image forte. Sauf que lorsqu'on a créé... Et c'est là le marché dupe que nous avons peut-être eu à travers les mots, le couple. Peut-être nous sommes laissés abuser par cette idée que ça en est entre amis, entre partenaires. Le fait d'avoir accepté un taux de change défavorable pour permettre à l'Allemagne de faire sa réunification, ça nous a coûté très cher et ça continue à nous coûter très cher. Et c'est vrai que l'Allemagne, il ne faut pas le découvrir, comme tous les pays du monde, n'ont qu'un seul élément, c'est leur intérêt national et l'intérêt de leur pays. Et c'est normal à nous aussi de nous armer sur ça. Et un dernier point quand même.
Oui.
On a voulu faire quelques infidélités aux Allemands à l'époque où les Anglais étaient dans notre périmètre, étaient au sein de l'Union européenne. Ça n'a jamais marché. Et donc aujourd'hui, il reste le couple franco-allemand. Et si, et je maintiens le mot couple, mais il ne faut pas qu'on soit dupes.
Pourquoi ça n'a jamais marché ? Vous savez pourquoi ?
Pourquoi ?
Parce que ce sont des anglo-saxons.
Voilà. C'est très bien pour vos
cousins.
Jeux de mots, mais en même temps...
Non, ce n'est pas des jeux de mots. Regardez la famille royale britannique.
Eh bien, le sujet aujourd'hui, si vous voulez, c'est que si on veut que l'Europe joue un rôle et que puisse avoir une destinée, eh bien, ça passe toujours par l'Allemagne et par la France. Mais la France nous a dépassés et la France, aujourd'hui, l'Allemagne nous a dépassés et nous sommes à la traîne.
LREM.
Non, mais c'est pour ça que je pense qu'il faut parler d'axe franco-allemand. Vraiment travailler, je pense que vraiment, il faut travailler le sujet de l'axe franco-allemand et notamment au regard des enjeux qui sont les nôtres. Les enjeux qui sont bien évidemment nationaux mais qui se retrouvent dans l'Europe. Par exemple, on parlait beaucoup en début d'émission du sujet migratoire. L'Europe doit pouvoir le traiter et il faut le traiter au sein de l'Union européenne et pas que nationale.
Visiblement, on n'arrive pas à le traiter.
Mais c'est pour ça qu'il va falloir aussi l'avoir sur le sujet.
Non, mais
je pense que
ça, c'est du yaka-faucon.
Non, ce n'est pas du yaka-faucon. C'est que ça n'a jamais été sur la table. Et qu'il ne faut pas...
À partir les migrants.
Pardon ?
À ne pas répartir les migrants dans les territoires et vouloir l'imposer aux pays d'accueil.
Vous parlez de la crise en Afghanistan ?
Pas seulement en Afghanistan. Depuis 2015, on nous sort toujours la même chose. Moi, je vous le dis, il y a un moment donné où l'Europe perd tout crédit en n'ayant pas un discours et en n'ayant pas une vision qui défend les États membres. Il faut arrêter d'être dans l'angélisme.
Non, mais je pense que voilà, c'est deux façons de voir les choses. Soit on est complètement sceptique et on se dit que tout va mal et que ça va pas bien et qu'on se met sous sa couette et puis qu'on attend que ça passe. Soit on se dit oui, les diagnostics sont posés. Non, mais je vous le dis très clairement. Merci beaucoup. Je vous entends beaucoup décrier les choses, d'avoir une vision à la limite de... Voilà, du déclin, et ça me chagrine un peu.
Non, ça,
le
c'est
sujet
votre vision.
Étant de dire que oui, il y a des choses qui ne vont pas. Le sujet des flux migratoires au sein au niveau de la nation, mais aussi au niveau de l'Europe. Il y a le sujet de la défense qu'on doit travailler au niveau de l'Europe. On l'a bien vu et il va falloir le prendre en main. Maintenant, soit on se dit ça va pas et on avance et on voit comment on avance, notamment en s'appuyant sur l'axe franco-allemand. Soit on se dit que ça va pas et du coup, j'arrivais pas à comprendre votre conclusion. C'est vous, au sein de l'équipe Valérie Pécresse, c'est quoi? Vous êtes du coup dans la ligne, monsieur Barnier?
Arrêtez de caricaturer. Non,
c'est une question. Je vous pose une question.
Arrêtez de caricaturer.
Écoutez ma
pas.
Question et vous verrez si c'est une caricature. C'est une vraie question que je pense qu'on est nombreux à se poser. Par rapport à ce que vous venez de dire, c'est une question et vous me direz oui ou non. Mais est-ce que du coup, vous êtes dans cette volonté de revenir un peu sur la place de la France au sein de l'Europe et sur l'importance de l'Europe dans les années à venir pour la France?
Non, notre volonté à nous, c'est que la France pèse en Europe. Parce que ce n'est pas le cas aujourd'hui avec Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, aujourd'hui, la France est sûre avec Emmanuel Macron, pardon de vous le dire, a perdu son rang au sein de l'Europe et au sein du monde. Notre volonté à nous, c'est de redonner à la France, c'est de redonner à la France sa place. Et il y a un certain nombre de sujets que devraient prendre les Européens. Mais ces sujets-là, il ne faut pas les prendre comme ils le font aujourd'hui. Pas laisser les technocrates parler aux technocrates. Parce que la vérité, c'est que la volonté politique a disparu au sein de l'Union Européenne. Aujourd'hui, c'est la Commission Européenne qui décide et qui décide de tout. Aujourd'hui, ce sont les juges européens, que ce soit la Cour Européenne des Droits de l'Homme, que ce soit la Cour de Justice.
Donc, vous
européenne.
Proposez de sortir
c'est
de l'Union
Européenne. C'est eux qui mais décident.
Valérie Pécresse propose de sortir de ça.
Mais vous allez continuer de caricaturer ça.
Non, je vous pose
mais
la question.
Il est temps aujourd'hui
c'est
de
quoi
remettre,
la proposition
de
quoi
remettre
la proposition
les pendules à l'heure et aujourd'hui de faire en sorte que nos impératifs, nos intérêts vitaux soient respectés.
Et donc,
il y a quelque chose qui nous a choqués.
Mais quelle est la proposition derrière?
Lorsque vous avez deux grandes entreprises qui veulent se marier et que l'Europe dit au nom de la concurrence
on
ne permet pas ce mariage et casse cette dynamique.
Quelle est la proposition de Valérie Pécresse?
Dans le même temps, les États étrangers s'arment, font de grands regroupements, que ce soit aux États-Unis.
Quelle est la proposition de Valérie Pécresse sur le sujet?
Et c'est l'angélisme de l'Europe qui nous
vous
pose
nous faites
problème.
Du Zemmour, là.
Et pas l'Europe.
Vous nous faites du
l'Europe,
Zemmour.
L'Europe, c'est une chance pour la France.
Non, l'Europe, parce que pour le coup, Zemmour est clair, contrairement à la droite. Lui propose sans doute de sortir d'un certain nombre de cours européennes, voilà, d'entrer dans un rapport de force avec elle. Et je suis d'accord avec vous, pardonnez-moi, je vous ai coupé, mais sur le diagnostic,
Alexandre Devecchio, du
je suis Figaro. Complètement d'accord, mais effectivement, est-ce que Valérie Pécresse souhaite rentrer dans un rapport de force avec un certain nombre d'institutions européennes?
Il y aura un rapport de force et nous imposerons la volonté française.
De quelle façon? Ça veut dire quoi, ça?
Vous verrez bien.
Ça veut rien dire.
Mais comment ça, vous verrez bien?
Pardon, quand
on
vous
va pas voter
Emmanuel
comme ça
Macron
en
caresser,
sans savoir.
Quand vous voyez Emmanuel Macron à longueur de journée caresser.
On vous demande de parler de Valérie Pécresse, pas d'Emmanuel Macron.
Caresser le président américain et qu'on voit après.
Parlez-nous des Valérie Pécresse, vous avez une
sujet.
Chance incroyable.
Et le sujet de l'Europe aujourd'hui est trop important. L'Europe
justement.
Doit devenir une Europe puissance. C'est pas une Europe qui s'occupe de votre vie quotidienne.
Je suis désolé, mais.
Enfin, vous tournez en rond là.
C'est, oui. Non mais c'est ça mais a un sens pour nous.
Non mais
non, je
ça,
ne veux
je
pas.
Je sais que ça a un sens pour vous, mais vous enchaînez les constats. Les constats, on les connaît.
Oui.
On vous demande de savoir quelle est la solution.
Alors, la solution vous allez laisser ouais. la candidate déployer ses...
Ah bah alors, attendez.
Parce que, elle aura des propositions. Mais non, je ne peux pas, à sa place, dévoiler ses propositions.
Ah
elle
non,
fera des propositions.
Mais en fait, parce qu'il y a un congrès fermé qu'elle ne fera pas la candidate.
Non, parce que il appartient aux candidats et dans tous les partis politiques de dévoiler leurs propres propositions.
Donc vous avez quand même une petite idée.
Nous sommes là pour en parler.
La vraie question qu'on a entre nous, ça vaut pour l'ensemble des candidats, c'est quoi notre rapport à l'Allemagne demain? Parce qu'on sait très bien que c'est autour de l'axe franco-allemand, et je préfère ce mot-là, que l'Europe évolue ou pas. Parce que le rapport de force avec l'Allemagne, on peut vouloir le construire, faut être sûr, enfin, faut pas arriver avec les Allemands avec des tongs. Hein. Voilà, faut pas arriver en tongs avec les Allemands. Vous voyez, donc ça veut dire que ce rapport-là...
Ça veut dire quoi, faut pas arriver en tongs?
Non, mais ça veut dire que derrière, c'est un pays puissant. Aujourd'hui, eux, ils ont 23% de leur richesse qui est produite par l'industrie. Nous, on est à 11%. Ça s'appelle arriver en tongs. Donc, si vous n'avez pas de réarmement industriel, les Allemands, ils vont vous dire bon, vous êtes bien sympa, ils vont jouer le rapport de force.
Ils vont jouer le rapport de force, mais voilà. Merci de le.
Alexandre de Vecchio.
Merci de le dire. Moi, je crois effectivement. Je ne crois pas au couple franco-allemand et je crois aux intérêts nationaux et aux rapports de force. De plus en plus, dans le monde qui est l'autre, on l'a vu encore il n'y a pas longtemps, avec la question des sous-marins. Et il faut dire la vérité, pour l'Allemagne, non seulement il n'y a pas de couple franco-allemand, mais quand l'Allemagne décide, elle ne consulte personne. Quand Angela Merkel veut rétablir les centrales à charbon, elle ne consulte pas la France. Lorsqu'elle veut accueillir 1 million de réfugiés, ça a des conséquences sur toute l'Europe. Elle ne se concerte avec personne. Donc je pense qu'il faut bien sûr de la coopération européenne, mais il faut plus de souveraineté française, évidemment. Alors c'est vrai que si on était dans un meilleur état économique, notamment industriel, ce serait plus facile d'avoir cette souveraineté-là. Mais je crois qu'on fait une erreur de stratégie depuis longtemps. C'est-à-dire que les élites françaises, fascinées par le modèle allemand, se sont dit, on va copier le modèle allemand, on va faire les réformes que l'Allemagne nous demande et l'Allemagne va être gentille avec nous. Bon, d'une part, l'Allemagne n'a pas forcément a vu ses intérêts, ne fait pas de concessions. Et on a vu que les réformes à l'allemande, ça ne marche pas tout simplement parce qu'on est un pays qui s'appelle la France et pas qui s'appelle l'Allemagne. Donc je pense qu'il faut faire preuve là d'imagination politique et plutôt que de copier les réformes allemandes, essayer, et moi je n'ai pas les réponses, je ne suis pas politique, mais de définir ce qu'est le modèle français et comment on transforme la France en puissant dans nos propres forces. Et je suis persuadé que la France, malgré ses difficultés économiques, a encore des forces et des capacités à se réformer. Et si on fait comme ça, je pense que l'Allemagne nous respectera beaucoup plus que si voilà, on est des élèves soumis.
Et puisqu'il n'y aura pas de proposition ce soir, vu qu'on a bien compris, je tenais à vous remercier à tous les quatre. Merci à Prisca Thévenot, porte-parole de La République En Marche. Merci à Alexandre Devecchio, rédacteur en chef adjoint au Figaro. Merci à Philippe Doucet, membre du Conseil national du PS, et à Patrick Caram, vice-président de la région Île-de-France et du Parti Libre. Et puis, puisque j'ai aussi une très très belle équipe qui travaille avec moi, merci à Guillaume Zorga à la réalisation et à celle qui prépare cette émission avec moi, Capucine Patouillet, et Valérie Danan.